n'importe quel objectif, il vous faut un plan d'action. Et le plan d'action, on l'appelle méthodologie dans le milieu professionnel et dans le jargon du hacking éthique et des tests d'intrusion. Et cette méthodologie, c'est la suite d'étapes qu'on va suivre pour atteindre notre objectif final, qui est de s'introduire dans le réseau de notre cible et ultimement, à la fin, d'essayer de la protéger. Donc, dans cette vidéo, on va découvrir ensemble les méthodologies qu'on peut utiliser pour nos fins en tant que testeur d'intrusion et hacker éthique. Donc, pour les méthodologies, il y en a plusieurs dans le milieu professionnel. Il y a une méthodologie qui s'appelle PTES, Penetration Testing Execution Standard. Il y a une méthodologie qu'on appelle NIST, une autre OSS-TMM, la plus fameuse, c'est la méthodologie OWASP. Donc, toutes ces méthodologies sont en fait des méthodologies créées par des entreprises bien établies dans le milieu et l'industrie de la sécurité informatique. Donc, OWASP, c'est très connu. C'est une entreprise et une association qui a fait de la recherche dans le milieu de la sécurité informatique. NIST aussi, mais la méthodologie, pour faire simple, la méthodologie la plus simple et que j'utilise dans mes tests d'intrusion, c'est la méthodologie PTES, malgré que toutes ces méthodologies partagent à peu près la même logique. Mais dans cette formation, je ne vais pas utiliser ces méthodologies, je vais utiliser une méthodologie beaucoup plus simple et qui va suivre ces étapes-là. Donc ici, comme vous voyez, on a 6 étapes et ces méthodologies qu'on a vues précédemment, chaque méthodologie a un nombre spécifique d'étapes. Mais pour faire simple, on va suivre cet ordre chronologique pour procéder et exécuter nos tests d'intrusion. Tout d'abord, la première étape, c'est de commencer avec la reconnaissance. Et en fait, il y a une étape avant cette étape, c'est l'étape où vous allez négocier avec le client. Mais souvent, vous allez travailler en tant que pen tester ou un testeur d'intrusion dans une entreprise qui va prendre en charge la négociation et le process de vente et tout. Et du coup, vous n'avez pas à vous soucier avec ces trucs-là, mais faut savoir qu'il y a une phase avant la phase de reconnaissance dans laquelle vous allez établir avec le client le scope, c'est-à-dire l'objectif et les cibles, les adresses IP, les serveurs que vous allez cibler, ce que vous pouvez faire et ce que vous pouvez pas faire. Par exemple, le client va vous dire vous n'êtes pas autorisé à scanner le serveur spécifique de production. Du coup, vous n'allez pas le scanner. Il va vous dire aussi que vous n'êtes pas autorisé à faire de l'ingénierie sociale, etc., etc. Donc, c'est très important de connaître les règles de l'engagement. Ensuite, vous avez la reconnaissance dans laquelle vous allez utiliser des outils, que ce soit open source ou des outils que vous allez développer vous-même pour récolter le maximum d'informations sur votre cible. Ça pourrait être un seul serveur, une seule application web par exemple, ou ça peut être un réseau total qui contient plusieurs dizaines, voire plusieurs centaines de serveurs, des serveurs Linux, Windows, peut-être Mac OS, etc. Vous allez utiliser des outils qu'on va voir ultérieurement qui vont vous permettre de récolter le maximum d'informations. Et on va voir dans la vidéo de reconnaissance, il y a plusieurs types de reconnaissance, mais ce qu'il faut savoir, c'est que vous avez besoin d'informations, et plus vous avez des informations concernant votre cible, plus votre test d'intrusion sera productif. Donc ça, c'est la première étape. La deuxième étape, c'est le scanning. Et en fait, ça fait partie de la reconnaissance, c'est-à-dire le scanning va vous permettre d'avoir plus d'informations. La différence, c'est que le scanning, c'est une étape et c'est une phase dans laquelle vous allez être beaucoup plus agressif dans votre approche de récolte d'informations. Ici, on va utiliser des outils, par exemple le fameux HandMap, dont il va nous donner des informations plus avancées et plus vitales sur les serveurs et les services de notre cible. Ensuite, nous avons le gain d'accès. Ici, dans cette phase, on va utiliser toutes les informations qu'on a eues dans la première et la deuxième étape pour s'introduire et pénétrer le réseau ou le système de notre cible. Donc ça, c'est la phase la plus excitante et la plus intéressante. Et de là, on va procéder à la phase suivante qui est le maintien d'accès, c'est-à-dire qu'on va, une fois on a pénétré le réseau, le système, on va essayer d'établir et de faire quelques manipulations qui vont nous permettre de rester à long terme sur le réseau. Une fois nous avons effectué ça, on va aller à la next ou la suivante phase qui est le nettoyage de traces. Il faut savoir que quand vous allez accéder, pénétrer le serveur ou le réseau de votre cible, vous allez laisser des traces, que ce soit des scripts, des fichiers texte, des logs, tout ça, il faut le supprimer pour ne pas laisser de traces derrière vous. C'est un travail professionnel, que ce soit les hackers éthiques ou les pirates, les deux, ils font la même chose, ils vont nettoyer les traces. Cette phase est beaucoup plus importante pour les pirates ou pour les hackers Black Hat, parce que s'ils laissent des traces, ils vont être attrapés et voilà, mis dans la prison. On veut pas ça en tant que hacker, parce que si vous laissez des traces, vous allez donner une mauvaise impression sur votre test d'intrusion. Donc il faut toujours être professionnel et nettoyer les traces derrière vous. Et la fin de notre test d'intrusion sera avec un rapport détaillé sur ce qu'on a effectué tout au long de notre test d'intrusion, dans la reconnaissance, ce qu'on a trouvé et ce qu'on recommande aux clients de cacher des yeux, de supprimer, par exemple, si on trouve des informations publiques sur l'infrastructure de notre client, eh bien, on va le recommander de supprimer ces informations publiques parce qu'un pirate, par exemple, ou un hacker Black Hat va utiliser ces informations pour pirater le réseau de notre client. Même chose pour la phase de scanning, on va donner les détails de ce qu'on a trouvé avec nos outils de scanning, le gain d'accès, maintien d'accès, nettoyage de traces. On va donner tous les détails d'une manière simplifiée pour que notre client puisse comprendre ce qu'on a fait. Et l'objectif ultime, c'est de protéger l'infrastructure de notre client. Donc, professionnel Windows 7, professionnel, next, j'accepte, next, custom advanced, et next. Et cela va lancer le process d'installation. Donc ça va prendre peut-être 10-15 minutes. Le système va redémarrer et vous serez à l'accueil du desktop de votre Windows 7 qu'on va utiliser comme machine victime tout au long de notre formation sur le test d'intrusion. C'est dans votre test d'intrusion. Rappelez-vous, on a parlé de la méthodologie qu'on va utiliser pour mener notre test d'intrusion. Si votre Rules of Engagement est bien établi, vous avez votre cible, les adresses IP que vous voulez tester et tout, on peut se lancer avec la première phase qui est la reconnaissance. Et dans cette phase de reconnaissance, on va tout simplement essayer de récolter le maximum d'informations concernant notre cible ou nos cibles si on a plusieurs cibles à la fois. Donc généralement, on divise la reconnaissance en deux parties. On a une partie passive et une partie active. Et vous allez faire chaque phase à la fois, c'est-à-dire vous allez consacrer un nombre limité d'heures pour pour récolter le maximum d'informations d'une façon passive. Ensuite, vous allez faire la même chose pour la méthode active. Pour laisser les choses organisées, vous allez aussi devoir documenter les informations que vous allez trouver. C'est très important de savoir comment documenter les informations parce qu'à la fin de votre test d'intrusion, vous allez devoir écrire un rapport et le plus vous êtes organisé dans votre documentation, le plus productif votre rapport sera. Donc la reconnaissance passive, c'est tout simplement une récolte d'informations qui ne va pas faire une interaction avec votre cible. Admettons que votre cible est un serveur web, voilà, et vous êtes en train de faire un test d'intrusion sur ce serveur web. Eh bien, quand vous allez commencer votre reconnaissance passive, vous n'allez en aucun cas interagir avec ce serveur web. Vous n'allez ni faire du scan, ni envoyer des informations directement depuis votre adresse IP ou votre machine. Vous allez tout simplement essayer de récolter des informations et de trouver des informations qui sont accessibles publiquement, que ce soit sur les moteurs de recherche, Google, Bing, etc., que ce soit sur les réseaux sociaux, etc. Et les informations que vous êtes en train de chercher, c'est des emails, c'est des mots de passe, c'est des noms d'utilisateurs, n'importe quelle information qui est publique, qui vous sera utile. Admettons que vous allez sur les réseaux sociaux et que vous trouverez des informations sur les personnes qui travaillent sur l'entreprise que vous êtes en train de tester. Ces informations sont très utiles. Vous pouvez aussi trouver leur email. Et avec leur email, vous pouvez utiliser des bases de données publiques qui sont disponibles sur Internet pour trouver si cet email a été piraté auparavant ou a été leaké. Vous trouvez dans des breaches auparavant sur des entreprises qui ont été piratées. Vous allez pouvoir, en utilisant ces bases de données, de trouver les mots de passe attachés à ces emails. Donc, toutes ces informations sont très importantes. Vous pouvez aussi trouver des informations d'une façon passive sur les technologies utilisées par le cerveau ou les technologies utilisées par cette entreprise en utilisant les forums, par exemple. Vous allez consulter des forums qui parlent d'un sujet spécifique et vous allez trouver par exemple que votre entreprise ou le serveur que vous testez utilise une version spécifique de PHP, une version spécifique de Django pour le backend, une version ou un type spécifique de DBMS, c'est-à-dire gestionnaire de base de données. Toutes ces informations seront très utiles quand on parle d'exploitant, quand on vient à la phase d'exploitation. Et on peut les trouver sans interaction avec notre serveur cible. Donc ça, c'est la façon passive de faire les choses. L'autre façon, c'est la façon active dans laquelle vous allez interagir avec le serveur. Et cette phase, il y a des gens qui l'appellent le scanning, mais on va différencier ces deux trucs. On va passivement et activement faire la reconnaissance et voir après faire le scanning, juste pour simplifier les choses. Mais la reconnaissance active fait partie du scanning. Dans ce cas-là, vous allez interagir avec le serveur cible, vous allez utiliser des outils comme Nmap, Nessus, OpenVAS, ainsi que d'autres scanners de serveur web pour récupérer plus et davantage d'informations, parce que la reconnaissance passive en elle-même, elle est limitée dans les informations dans laquelle elle peut donner. Et du coup, on va compléter ça avec la reconnaissance active en utilisant des outils comme Nmap, et cela va faire en sorte d'envoyer des paquets de tests au serveur cible et va nous faire retourner des informations comme les protocoles utilisés par le serveur, les services utilisés dans ce serveur web, ainsi que les ports ouverts, les ports fermés, les ports filtrés, etc. L'avantage de la reconnaissance active, c'est qu'elle va vous donner davantage d'informations, mais l'inconvénient, c'est que vous pouvez être bloqué par un parcours, par exemple. Vous pouvez être bloqué par votre adresse IP si vous envoyez un certain nombre de paquets suspicieux. Tout ça, donc, il faut le prendre en compte quand vous utilisez la reconnaissance active. La reconnaissance passive, elle est limitée dans son résultat, mais l'avantage c'est que ce potentiel est illimité. N'importe quelle information que vous pouvez trouver en ligne peut être utile dans la phase d'exploitation. Donc voilà, donc ça c'est l'organisation de notre reconnaissance et on va voir les outils qui vont nous aider à faire cette reconnaissance, dans laquelle on va voir comment mener une reconnaissance passive et active avec un outil qui s'appelle Spiderfoot. Mais avant de vous montrer comment lancer Spiderfoot, comme vous voyez ici, Spiderfoot est en train de faire un scanning sur une cible. Mais avant de vous montrer comment utiliser Spiderfoot, j'aimerais bien vous présenter les outils que vous avez sur Kali Linux qui vous permettent de faire une reconnaissance sur une cible. Donc ici, si vous allez sur Information Gathering, vous allez trouver une myriade d'outils qui vous permettront de faire un scanning passif et actif sur un réseau, un système cible. Ici, dans la première section, vous avez DNS Analysis. DNS, c'est le protocole, le fameux protocole Domain Name System. C'est un protocole qui est responsable de la traduction d'un nom de domaine à une adresse IP. Avec ces outils DNS Enum, DNS Recon, Fierce, vous pouvez faire une reconnaissance sur ce protocole spécifiquement. Vous avez aussi une autre section IDS, IPS Identification. IDS, c'est pour Intrusion Detection System. IPS, c'est pour Intrusion Prevention System. Ces technologies sont là pour protéger les réseaux. On utilise un IDS, Intrusion Detection System, pour détecter les attaques sur un réseau ou sur un système. On utilise le IPS pour prévenir les attaques. Et vous avez ici des outils qui vont vous permettre de voir s'il y a vraiment un pare-feu ou un IPS, un IDS qui protège le réseau que vous êtes en train de tester. Par exemple ici, WOF, W-O-O-F, c'est un outil qui va essayer de voir si la cible que vous êtes en train de tester est protégée par un pare-feu ou pas. Live Host Identification, vous avez Mascan, THC Ping 6, F Ping, H Ping 3, sont des outils qui vont détecter si la cible ou le système ou le serveur que vous êtes en train de tester est active ou pas. Par exemple, vous pouvez utiliser F Ping ou Ping directement pour voir si la machine répond ou pas. Par exemple, si vous lancez un ping, ici je suis sur Windows, et les machines Windows et Microsoft généralement ne répondent pas au ping, ça veut pas dire que la machine n'est pas active. Si on prend un exemple, si je lance le CMD ici rapidement. Pardon, ici, CMD, voilà. Et je cherche l'adresse IP de ma machine Windows qui, avec la commande ipconfig, vous allez voir l'adresse IP ici. Donc ici, j'ai plusieurs cartes réseau. Et je vais essayer de pinguer ma machine Windows et voir si elle va répondre au ping ou pas. Je vais le faire avec un autre terminal ici. Je vais ouvrir un terminal en cliquant ici. Et là, je vais faire un zoom in, ping, et je vais essayer de pinguer ma machine Windows. Donc ici, vous pouvez voir tout d'abord l'adresse IP de votre machine Kali avec la commande ifconfig. Donc voici l'adresse IP de Kali Linux. Mais ici, je veux pinguer l'adresse IP de ma machine Windows qui se trouve sur l'adresse IP 192.168. Donc ça, c'est 95 70. Donc ça, c'est l'adresse IP de ma machine Windows qu'on voit ici là, et qu'on voit ici, le ping ne répond pas parce que Windows est designé, Microsoft design les machines Windows à ne pas répondre au ping, parce que le ping, c'est en fait un élément que les hackers éthiques et les testeurs d'intrusion utilisent pour détecter les services, les ports et les protocoles utilisés par la machine. Donc, c'est un moyen de protection que Microsoft utilise, mais ce que je veux dire ici, c'est ce que j'essaie d'expliquer, c'est que si vous lancez un ping sur une adresse IP et que ça ne répond pas, ça ne veut pas dire que la machine n'est pas active. Si j'essaie la même chose avec un autre système Linux, par exemple ici j'ai une autre instance de Kali Linux, je peux chercher son adresse IP avec la commande ifconfig. Voici l'adresse IP. Donc elle n'est pas en bridge, donc je vais changer rapidement sa configuration à bridged. Donc ici bridged, ça va mettre votre machine virtuelle dans le même réseau que votre machine hôte. Et du coup, je peux mettre en contact la machine hôte et la machine virtuelle parce qu'ils sont sur le même réseau. Ici, si je mets NAT, la machine virtuelle sera sur un réseau séparé de ma machine hôte et du coup je peux pas pinguer. Même si j'essaie, vous voyez tout d'abord que l'interface Ethernet 0, elle est sur une adresse IP différente de l'adresse IP de ma machine Windows. Donc si je ramène encore une fois le CMD et je fais ipconfig, vous allez voir que c'est radicalement différent, cette adresse IP, parce que ma machine virtuelle est isolée de ma machine Windows, et du coup, je peux pas pinguer. Même si je fais ping, ça va pas pinguer. Même si je ping ma machine, l'autre machine Kali Linux, ça ne va pas passer. Et du coup, ce que je vais devoir faire, c'est de mettre toutes les machines, la machine Hot Windows et les machines virtuelles sur le même réseau en cliquant sur Bridge Adapter. OK. Maintenant, je vais faire la même chose à ifconfig pour vérifier si ça marchait. Voilà. Ça n'a pas marché. Donc, je vais devoir Wired. Voilà. Ifconfig. Et voilà. Donc ici, si on compare encore une fois, pardon. Ici. Vous allez voir que c'est le même réseau. Ici, la machine, elle est sur l'adresse 161 et la machine ici, elle est sur 70. Mais toujours, je peux pas pinguer la machine Windows qui est sur le 70. Voilà, ça marche pas. Mais si j'essaie de pinguer cette machine, voilà, je fais copier et je fais ping. Et je call l'adresse, vous allez voir que ça répond normalement, c'est-à-dire que cette machine, la machine virtuelle, est active. Donc ça, c'est l'utilité des pings. Je reviens, je ferme ce terminal et on revient sur ce qu'on discutait auparavant. Donc ça, c'est Live Host Identification. Ce HPing 3, c'est un outil qu'on voit régulièrement dans les attaques DOS. Distributed Denial of Service, DDoS aussi. Donc voilà, c'est juste le rôle principal de ces outils, c'est d'identifier les machines sur le réseau. Donc Network and Port Scanners, on a le fameux Nmap et le Mascan, donc c'est des outils qu'on va utiliser dans le scanning des systèmes d'exploitation. On verra Nmap en détail dans une prochaine leçon. Mascan, c'est comme Nmap, mais c'est un outil qui offre plus de flexibilité et je pense qu'il est beaucoup plus rapide que Nmap. Ensuite, vous avez OSINT Analysis. OSINT, c'est pour Open Source Intelligence Analysis, c'est-à-dire comment c'est des outils, comme on va voir Spiderfoot dans cette leçon, c'est des outils qui vont vous permettre de récolter l'intelligence disponible sur Internet. L'intelligence veut dire par intelligence information tout simplement. Donc ces outils comme Spiderfoot vont automatiquement récolter le maximum d'informations d'une façon passive et active comme vous voulez depuis Internet. Donc chaque information sera disponible sur la base de données de Spiderfoot après l'analyse. Route Analysis, donc ici, ces outils vont détecter les routes d'un réseau, donc c'est très important si vous êtes ce qu'on appelle le Network Penetration Testing, vous allez avoir besoin de ces outils. SMB Analysis, SMB c'est un protocole utilisé généralement quand on voit dans un environnement Microsoft, on a l'outil, le fameux Enum for Linux, NBT Scan et SMMap. Ces outils sont très importants. Pourquoi? Parce que généralement dans des environnements Microsoft, les versions du protocole SMB sont vulnérables et avec ces outils-là, vous pouvez exploiter ces protocoles. SMPP Analysis. SMPP, c'est un protocole qui est responsable de la gestion des emails, l'envoi et la réception. Et cet outil va vous aider à scanner, essayer d'exploiter ce protocole. SNMP et SSL. SNMP, toujours, on parle de protocole. Et SNMP Check va essayer de détecter si ce protocole existe, la version, etc. SSL Analysis, ici, c'est surtout pour les serveurs web. Ces outils vont essayer de détecter la version de SSL utilisée par ce serveur web. Et ça va aussi vous aider dans les recommandations dans la phase de rapport. Par exemple, si vous êtes en train de faire un test d'intrusion sur un serveur web qui utilise une ancienne version de SSL, et ben vous allez recommander de faire une mise à jour sur le SSL. Donc, vous voyez, plus vous avez d'informations concernant votre cible, plus vous avez d'options d'exploitation et aussi vous avez d'options de recommandation pour votre client. Ici, dans cette leçon, on va voir Spiderfoot. Il est par défaut installé sur Kali Linux et on va essayer de faire un scan sur une cible. Donc ici, j'ai déjà lancé un scan, mais je vais vous montrer comment je l'ai fait avec mon autre instance plein de Kali Linux. Donc vous allez soit vous allez ouvrir ça, Information Gathering, ensuite vous allez cliquer sur Spiderfoot. Voilà. Je vais faire un zoom in pour que vous puissiez voir. Ça exécute Spiderfoot. Donc, à la base, vous allez avoir quelques arguments à utiliser. Je vais faire simple. Spiderfoot, c'est un outil, comme je viens de l'expliquer, c'est un outil qui va vous permettre de faire une reconnaissance sur une cible. Pour l'utiliser, on va faire, tout d'abord, on va élever les privilèges à l'exil dessus. Voilà. Mot de passe incorrect, pas dit. Voilà. Donc, ce que je vais faire, c'est spiderfoot-l, qu'on voyait ici, -l, et je vais spécifier l'adresse IP et le port du serveur que je vais utiliser. Ici, le spiderfoot, il a une interface sur le serveur web, et du coup, on a besoin de lancer le serveur web local de Kali Linux, mais je veux voir d'une adresse IP. Voilà. Ça, c'est l'adresse IP de ma machine Kali. Je vais la spécifier ici et je vais lancer le serveur web sur le port 80. Voilà. Et cela va lancer le serveur web avec Spiderfoot. Voilà. Il vous demande de consulter ce lien, Open Link. Et ça a crashé, je pense. Mais le fait de cliquer sur Open Link, vous allez avoir ça. Donc cette interface Spiderfoot, un design minimaliste que j'aime bien, et vous allez avoir toujours le terminal qui fonctionne en arrière-plan. Donc ici, comment lancer un scan? Vous allez sur New Scan. Ensuite, vous avez la possibilité d'entrer un nom de votre scan, et là, vous allez entrer le domain name, c'est-à-dire le nom de domaine que vous voulez tester, si vous êtes en train de tester un serveur web. Sinon, vous pouvez mettre une adresse IP ou un réseau. Vous pouvez par exemple faire, si vous êtes en train de faire un test d'intrusion sur un réseau, vous pouvez faire /24 pour analyser tout le réseau. Bien évidemment, les scans vont rendre un peu de temps. Ça dépend la taille du réseau que vous êtes en train de tester. Par exemple, ici, en arrière-plan, je suis en train de tester mon site web actinbit.com. Si vous allez sur Scans, vous allez voir que c'est toujours running, malgré que mon site n'est pas aussi gros que ça. Mais ça prend, ça a pris un peu de temps. Maintenant, c'est 20 minutes, je pense. Mais donc, soyez patient et rappelez-vous que plus le réseau est grand, plus cela va prendre du temps. Donc ici, Spiderfoot, qu'est-ce qu'il nous offre? Vous pouvez ici, par exemple, test intrusion et vous allez entrer le nom de votre client, par exemple, X-Corp. Ensuite, ici, vous allez entrer l'adresse IP de votre client, par exemple, l'adresse IP de tout le réseau. Ensuite, vous avez quelques options à choisir. Vous avez la méthode passive. Ici, vous allez ordonner à Spiderfoot de faire un scan passif, c'est-à-dire il n'y aura aucune interaction avec le réseau de notre machine. Donc, as much information will be gathered without touching the target or their affiliates. Donc, comme on a expliqué, c'est la méthode passive. Il n'y a eu aucune interaction avec le système cible. Si, en revanche, vous choisissez All, eh bien là, Spiderfoot va utiliser toutes les méthodes possibles pour récolter des informations, que ce soit passives ou actives. Il va utiliser toutes les possibilités pour récupérer des informations. Donc, si vous êtes en train de faire une reconnaissance passive, il suffit juste de cocher cette phase. Ici, c'est By required data, cette section va vous permettre de voir les informations que Spiderfoot va essayer de récupérer. Par exemple, on peut voir ici différentes catégories. Il y a les catégories passives et actives. Affiliate company name, ici c'est une information passive que vous pouvez trouver sur n'importe quel moteur de recherche. Par contre, le DNS SPF record, c'est quelque chose aussi de, vous pouvez le trouver d'une façon passive. HTTP headers, c'est quelque chose que vous devez faire en mode active. Donc, c'est un mix d'informations que Spiderfoot vous, peut vous donner. Ici, c'est les modules utilisés par Spiderfoot. Vous avez différents modules ici. Google Maps, host.io. Il utilise ainsi des outils tierces pour récupérer le maximum d'informations, comme Twilio, pour récupérer des informations de téléphonie, virus total. Donc, c'est des bases de données publiques que Spiderfoot va utiliser pour récupérer des informations. Vous avez HackerOne, c'est une fameuse plateforme pour les bug bounty et les hacker hunters. Donc voilà. Si vous allez sur Scan, vous allez voir que j'ai un scan qui s'appelle Web Server. On a Settings, on va pas rentrer dans les détails de Settings. Mais pour laisser les trucs simples, je vais cliquer sur le scan qui est toujours en cours d'exécution. J'ai lancé le scan sur le nom de domaine actinbit.com et là, j'ai un graphe qui contient des informations. Si on revient sur Scans, vous allez voir que là, qu'on a presque 200 éléments que Spiderfoot a déjà trouvé. Ici, on a le target ou la cible. Donc, ne lancez pas ce même scan sur mon site web, sinon vous allez le cracher. Bon, voilà. Sur Web Server, vous allez trouver ici le graphe sur les informations que Spiderfoot a trouvé. Par exemple, ici, Affiliate Internet Name. Vous allez trouver ici SSL Certificate. Si on clique dessus, vous allez avoir des informations sur la certificat SSL de mon site web. Qu'est-ce qu'on a aussi? On a ici IPv6 addresses, country name, blacklisted internet name. Donc, toutes ces informations sont des informations utile que vous pouvez inclure dans votre rapport à la fin de votre test d'intrusion. Correlations, on n'a rien, vu que le scan n'a pas été accompli encore. Browse, ici, c'est les mêmes informations qu'on a vues sur le sommaire. Graph, donc ça, c'est quelque chose de très intéressant Ici, à la racine ou le début, c'est donc voilà, c'est en rouge, c'est le site ou votre cible acquisitive.com. Ensuite, vous avez en noir les relations de votre site. Par exemple, si on voit ça, school.acquisitive.com. Donc ça, c'est un sous-domaine que j'ai créé il y a quelques années maintenant et que j'ai supprimé. Mais ici, Spiderfoot a pu trouver cette information. Vous avez aussi cours.acquisitive.com. Donc ça, c'est le site actuel que j'utilise pour héberger mes cours, mes différents cours sur le hacking éthique et mes livres que je publie sur cette plateforme. Donc voilà, Spiderfoot a pu trouver ces informations. Voilà. Vous avez aussi www.acquisitive.com. Vous avez aussi une relation avec webdesk.acquisitive.com. Donc ça, c'est l'adresse où vous allez trouver des informations concernant les disques durs de mon serveur. Vous avez une adresse IP ici. Vous avez cpcontacts.hackinggeek. Vous avez des name servers, cpcalendars, pop.hackinggeek.com. Je sais pas c'est quoi ça, honnêtement. dojo.hackinggeek.com, c'est un sous-domaine que j'ai créé il y a quelques années. Je l'ai supprimé. Mail, donc ça, c'est le sous-domaine responsable de ma boîte mail. Qu'est-ce qu'on a aussi? Ça, c'est des name servers, SPF, Mail Kitchen. Donc ça, c'est très intéressant parce que ici, ça vous montre que j'ai déjà utilisé le service de mailing de Mail Kitchen, qui est une plateforme en ligne d'envoi d'email. Donc, j'ai configuré mon serveur à d'une façon à pouvoir utiliser le service de Mail Kitchen, et là, Spiderfoot a pu détecter ça. Donc c'est très intéressant, webmail, mail.com, et là c'est l'adresse IPv6 je pense. Donc voilà, Spiderfoot va vous donner ce graphe très intéressant, et plus bien évidemment, plus votre cible est grosse ou plus votre réseau est gros, plus ce graphe va être complexe. Voilà, donc ça c'est scan, c'est la configuration de votre scan. Mais la phase la plus intéressante ou la section la plus intéressante de Spiderfoot, c'est le sommaire et correlations et le browse. Donc browse, il va vous donner tous les résultats ici et le graph va vous donner une forme graphique de toutes les données qu'il a pu trouver. Donc voilà pour Spiderfoot, comme vous voyez, ça toujours scan à hackinggeek.com. Imaginez si vous avez un réseau avec 100 serveurs, ça va prendre des heures et des heures, mais au final, c'est très intéressant quand vous allez checker les informations trouvées par Spiderfoot. Je le trouve comme un outil très fascinant, très intéressant. Et bien évidemment, vous allez lancer Spiderfoot en arrière-plan et vous allez faire quelque chose pour faire avancer votre test d'intrusion. Donc ça, c'est la récolte d'informations avec Spiderfoot. Entamez la phase de scanning. Donc pour la phase de scanning, ou ce qu'on appelle la reconnaissance active, c'est d'interagir avec notre cible et d'essayer de récupérer des informations en utilisant différents outils. On va se concentrer dans cette formation sur deux outils majoritairement. Le premier outil, c'est Nmap, Network Mapper. C'est le plus utilisé des outils de scanning dans l'industrie des tests d'intrusion et le ethical hacking. Nmap va nous permettre de voir les protocoles utilisés sur le serveur ou les serveurs que vous êtes en train de tester. Est-ce que ce sont des protocoles UTP, TCP, le type spécifique de protocole, est-ce qu'il y a un protocole HTTP, SSH, FTP, SMTP, etc., etc. Tout ça, on peut le trouver avec Nmap. Vous allez aussi trouver avec Nmap la version spécifique de ce service. Par exemple, si vous êtes en train de scanner un serveur web, vous pouvez voir la version exacte de HTTPD utilisé par ce serveur web et ensuite chercher plus loin pour voir s'il y a un exploit ou si cette ce, cette version est exploitable et est-ce qu'elle est vulnérable ou pas. Donc tout ça, c'est possible avec Nmap. Nmap va vous aussi permettre de voir quel système d'exploitation la machine ou le serveur utilise. Est-ce que c'est une machine Windows? Est-ce que c'est une machine Linux? Et quelle distribution de Linux? Est-ce que c'est une machine macOS, etc. Donc ça, c'est possible avec Nmap. Et Nmap, il nous offre beaucoup plus de fonctionnalités. C'est extrêmement flexible et puissant comme outil de scanning. Et dans les prochaines leçons, on va voir comment l'utiliser. Ensuite, on a le deuxième outil qu'on va voir, c'est Nessus. Nessus, c'est un outil qui n'est pas en fait open source. Il est créé par une entreprise qui s'appelle Tenable. On va le télécharger, on va l'installer. Et Nessus, ce qui va nous permettre de faire, c'est de scanner et chercher les vulnérabilités. Donc, on va faire un scan de vulnérabilité avec Nessus. Par exemple, si on a un réseau, si on a un serveur web, on peut juste indiquer son adresse sur à Nessus et Nessus, il va lancer un scan étendu sur le serveur ou les réseaux cibles. Il va nous donner un rapport détaillé sur toutes les vulnérabilités trouvées sur ce serveur ou sur ce réseau. Il va nous donner aussi des recommandations pour fixer les problèmes. Donc, chaque outil, il a ses avantages et ses inconvénients. Et pour combler les inconvénients ou le vide, on va les utiliser tous les deux, tout simplement. Donc, on va utiliser Nmap et Nessus pour trouver le maximum d'informations. Mais il faut faire attention quand vous faites du scanning sur le serveur ou le réseau de votre cible, parce que des fois, vous allez encombrer le réseau avec des paquets, parce que tout simplement, le scanning, c'est quoi? C'est envoyer des paquets et recevoir des réponses. Et cela va créer du trafic dans le réseau, et certains réseaux ont une configuration spécifique où ils sont fragiles, d'une façon où un scan Nmap ou un scan avec n'importe quel autre outil va mettre du risque sur le réseau. Vous pouvez tout simplement faire tomber le réseau et cela peut être catastrophique dans un milieu de production ou si votre client, le réseau de votre client ne supporte pas un temps off ou un temps de dépannage, voilà. Donc vous êtes toujours responsable des outils que vous lancez et je vous recommande de toujours vérifier les lois d'engagement que vous avez fait au tout début de votre test d'intrusion et essayez d'aller pas à pas avec ces outils. Donc ne lancez pas des scans à aléatoirement. Pour être prudent, lancer des scans d'une façon stratégique et avancer tout doucement dans votre test d'intrusion. Donc voilà, dans les prochaines leçons, on va voir Nmap et Nessus. Leçon, on va se concentrer sur Nmap. Donc tout d'abord, j'ai une adresse IP ici que je peux utiliser comme exemple pour tester le scanning avec Nmap. La première chose que vous allez faire, c'est d'ouvrir un terminal. Je vais zoomer un peu et là, je vais élever les privilèges parce qu'il y a certains scans avec Nmap qui requièrent les privilèges. Voilà. Maintenant, si vous tapez Nmap, bien évidemment préinstallé sur Kali Linux, vous allez avoir le menu d'aide de Nmap. Donc ça, c'est les différentes options que vous pouvez utiliser pour étendre les fonctionnalités de Nmap. Donc chaque option a un rôle spécifique. Par exemple ici, le -pn, on peut l'utiliser pour dire à Nmap qu'on est sûr que le serveur qu'on est en train de tester ou de scanner est actif. Sinon, vous avez le -su ici pour utiliser un scan de type UDP. Parce que le scan par défaut, c'est un scan TCP. Vous pouvez aussi trouver le fameux SV pour trouver les versions des services exécutés sur le serveur. Vous avez le -o pour détecter la version du système d'exploitation sur le serveur cible. Voyons voir quelques exemples. Donc, je vais utiliser l'adresse IP que vous voyez ici pour tester les différents scans de NBAP. On va commencer par le scan par défaut sans aucun argument. Et je vais passer l'adresse IP du serveur. Ici, vous pouvez scanner soit un seul serveur, vous pouvez scanner la totalité du réseau. Par exemple, vous pouvez utiliser le CIDR annotation, c'est-à-dire faire 24 ici pour scanner tout le réseau CIDR 24. Ça dépend de votre réseau que vous êtes en train de tester. Vous pouvez utiliser un nom de domaine comme google.fr tout simplement. Mais ici, dans ce cas-là, on est intéressé par scanner le serveur avec l'adresse IP suivante. Voilà. Donc, Nmap va lancer le scan. Ça va prendre un peu de temps pour faire le scan. Ça dépend la taille de votre réseau. Ça dépend aussi de la complexité de l'architecture de votre réseau. Mais si vous appuyez sur espace, vous allez avoir le pourcentage de l'avancement, de la progression de votre scan. Vous allez voir que ici, on est en train de faire un SIN stealth scan. C'est par défaut, le scan par défaut de Nmap. Comme vous le savez, pour les gens qui ont un peu de connaissance en termes de réseautage, chaque connexion établie par TCP, le protocole, va suivre, surtout avec, si on prend un serveur par exemple, l'établissement de la connexion va suivre trois chemins, ou le three-way handshake, qu'on appelle three-way handshake, le SYN, ensuite acknowledgement pour établir et commencer d'échanger des informations. Donc ici, c'est un SYN stealth scan, c'est-à-dire le Nmap va envoyer le flag SYN et on a le retour ici, on a l'adresse IP de notre serveur scanné, host is up, il nous dit que le serveur est actif, on a le nombre de ports fermés, et ici on a les résultats, c'est-à-dire les ports, le protocole TCP ici, donc tous les cas, on a le state, c'est-à-dire le statut du port, ici c'est open, c'est-à-dire ouvert, et on a le service qui s'exécute sur ce port. Donc voilà, et on a ici le temps total du scan. Donc voilà, donc ça c'est un exemple très simple d'utilisation de Nmap. Vous voyez ici que Nmap n'a pas pu trouver le service exécuté sur ces ports-là. C'est pas grave, on peut utiliser des options, des arguments de Nmap pour trouver ces informations qui nous manquent. Par exemple, si je veux savoir le type de système d'exploitation utilisé sur le serveur, je peux ajouter l'argument O, dash O. Et cela va faire en sorte que Nmap va essayer de détecter la version du système d'exploitation de notre serveur. Attention, comme j'ai mentionné dans la vidéo d'introduction du scanning, il faut être prudent quand vous utilisez de tels outils de scanning, que ce soit Nmap ou autre, parce que souvent dans un réseau, on a ce qu'on appelle les pare-feux, les IDS, les IPS, qui sont là pour protéger le réseau, ils sont là pour détecter un trafic malveillant, et Nmap est considéré comme trafic malveillant, et du coup, ces outils de sécurité ou de défense vont bloquer votre adresse IP la minute où ils détectent que vous êtes en train de scanner des serveurs sur le réseau. Donc voilà, faut être prudent avec l'utilisation de Nmap. Ici, on a utilisé le dash O pour essayer de détecter le système d'exploitation et voici ce qu'on a eu. Donc c'est pas très lisible, mais on voit bien que c'est du Windows qu'on voit ici, Win. Vous avez ici des fois Nmap il nous retourne des informations qui ne sont pas très justes pour dire le moins. Donc ici on voit qu'il y a Windows, on voit aussi qu'on a quelque chose de Linux x86, On voit aussi que c'est T7, T4. Donc ça, c'est les vitesses de scan de Nmap. Plus vous allez augmenter les vitesses, plus Nmap va être plus agressif et plus vous allez bien évidemment élever les chances d'être détecté par un PARPE ou un Intrusion Detection System ou autre outil de sécurité. Donc ça, c'est un exemple de l'argument dash O. Vous pouvez par exemple utiliser le dash S V majuscule et cela va essayer de détecter les versions de service exécutées sur les différents ports. Comme vous le savez, ces informations sont très importantes et vous allez les mettre dans votre rapport. Des fois, vous avez sur un serveur des ports qui ne sont pas utilisables par les administrateurs ou le client et qui sont ouverts. Il faut les fermer. Et des fois, vous avez des services qui sont vulnérables. On va voir tout ça dans les leçons qui vont venir, comment exploiter des services vulnérables. Donc, l'argument d'HSV pour détecter les versions de services, vous voyez, ça prend un peu plus de temps. Mais grosso modo, on a le port 135, 139, le 445. Bien évidemment, on voit Microsoft DHDS. C'est une information qui va compléter ce win qu'on a vu, c'est-à-dire que ça va confirmer qu'on est en train de scanner un serveur Windows. On voit le port 3389 qui exécute le service MS -WBT-server et ensuite les autres ports on ne sait pas les services qui s'exécutent. On essaye de le faire avec l'argument -SSV. Donc toutes ces informations vous allez les mettre dans un document comme Cherry Tree ou n'importe quel autre document texte et vous allez ici par exemple appeler ça scanning avec Nmap. Et ce que vous allez faire, c'est tout simplement faire un copier ou faire un screenshot, comme vous voulez. Je vais faire un copier, voilà, et je le mets ici. Bon, c'est très important quand vous allez venir sur la phase d'exploitation. Ce qu'on voit ici, c'est que, bien évidemment, Nmap a détecté que c'est du Windows. C'est un système d'exploitation Windows. On voit qu'on a un nom d'utilisateur qui s'appelle John-PC, très important comme information. Nous voyons aussi que Nmap a pu détecter les services utilisés sur les autres ports. On voit que le service s'appelle MSLPC, Microsoft Windows RPC. On voit bien que le port 445, c'est pour Microsoft DHDS, Microsoft Windows 7 et 10. Donc, on n'est pas sûr si c'est un Windows 7 ou 10, mais bon, c'est des informations très importantes. On voit que c'est un service NetBIOS SSN. Voilà. Ces informations, on les a mis sur notre document de rapport et on a besoin de toutes ces informations pour la phase d'exploitation. Maintenant, on peut utiliser d'autres arguments avec Nmap. Par exemple, on peut utiliser des scripts. Nmap, il contient des scripts que vous pouvez utiliser pour faire des trucs plus avancés, que ce soit d'un point de vue scanning ou point de vue exploitation. Eh bien oui, Nmap peut exploiter quelques services vulnérables et vous pouvez trouver les scripts de Nmap ou vous pouvez les utiliser en utilisant l'argument --script. Donc avec l'argument --script, vous allez pouvoir utiliser un script spécifique qui va faire une tâche spécifique sur le serveur que vous êtes en train de chercher. Vous avez l'argument -si zombie host dans le cas où vous êtes sur un réseau que vous ne voulez pas divulguer votre adresse IP, vous pouvez utiliser un serveur tierce comme zombie qui va rediriger les paquets, c'est-à-dire vous allez envoyer ces paquets au serveur tierce et ce serveur tierce va envoyer les paquets de scan au serveur cible. Donc ça, c'est une technique importante à savoir. Vous avez aussi le SN pour le ping scan. Si vous voulez pas envoyer de paquet ping, vous pouvez utiliser le dash ping. Si, par exemple, si vous savez certainement que votre cible est actif, vous pouvez ignorer le scan ping avec le dash ping pour économiser un peu de temps et minimiser un peu le trafic sur le réseau. Donc, grosso modo, c'est ça. On a eu les informations de notre scan Nmap. Un autre scan très important et crucial à utiliser, c'est le Nmap-A. Ensuite, l'adresse IP de votre machine. Eh bien, ce scan est le scan agressif. Attention, ne pas utiliser ce scan dans tous les cas parce que c'est un scan agressif. Ça génère beaucoup de trafic sur le réseau et ça pourrait aussi être considéré comme une attaque DOS sur un serveur donné. Donc, juste utiliser cet argument, ce type de scan, quand vous êtes sûr que vous n'allez pas avoir des effets secondaires sur le réseau, le service ou le serveur que vous êtes en train d'analyser. Par contre, l'avantage, c'est que ce scan va vous donner davantage d'informations sur votre serveur. Ça va essayer de récupérer le maximum d'informations d'une façon très agressive. Et on va voir tout de suite comment cela va être représenté avec le résultat de Nmap. Voilà. Donc, on a beaucoup d'informations qui nous sont très utiles dans la phase d'exploitation. Comme vous voyez, dans ce cas-là, avec l'argument d'HA, Nmap a pu trancher sur la version de notre système d'exploitation cible. C'est du Windows 7 Professional. Il nous a aussi donné le serial number. C'est du pack 1. C'est une information vitale pour notre test d'intrusion. Nous avons aussi le nom d'utilisateur. Nous avons NetBIOS Domain Name, une information cruciale, Product Version. Et en dessous, on a des informations concernant le protocole SMB, donc SMB Security Mode, Guest, on a OS Windows 7. Ces informations sont tout simplement une mine d'or pour le testeur d'intrusion. Et du coup, je vais devoir remplacer ces informations. Voilà. Je vais les mettre ici à la place de mon ancien résultat parce que c'est beaucoup plus détaillé. Voilà. Donc, je vais mettre ça ici. Maintenant, si vous êtes intéressé par un port spécifique de votre serveur, admettons que vous êtes en train de faire un scan sur le serveur web, vous pouvez spécifier le port exact par l'argument d'HP. Et ici, vous pouvez mettre et mentionner le port que vous voulez que Nmap scanne. Ici, par exemple, le port 80. Si vous avez plusieurs ports, vous pouvez les mentionner en les séparant par une virgule. Par exemple, le 80, le 443, le 22, le 28. Eh bien, Nmap va se concentrer seulement sur ces ports. Voilà. C'est tout ce que vous devriez savoir en termes de scanning Nmap et les arguments les plus utiles que vous pouvez utiliser. Ici, il y a un exemple qui dit scanme.nmap.org. Donc ça, c'est un nom de domaine mis spécifiquement par l'entreprise Nmap pour vous permettre de le scanner. Donc vous avez l'autorisation de scanner ce nom de domaine, mais tout autre nom de domaine que vous n'avez pas les permissions de le scanner, please ne pas scanner n'importe quel domaine et surtout le domaine que vous n'avez pas l'autorisation de les scanner. Donc voilà, scannez votre cible et toujours documentez et mettez les informations que vous avez trouvées avec Nmap sur un document de code. Et Nmap pour scanner un serveur ou un réseau, et on a vu des différents arguments que Nmap nous offre pour récolter des informations sur notre cible. Dans cette leçon, on va s'intéresser à Nessus, qui est un scanner de vulnérabilité très connu. Et tout d'abord, on va devoir l'installer. Donc, vous allez sur le site officiel de Nessus, qui est tenable.com, downloads, et là, vous allez pouvoir télécharger Nessus. Donc ici, vous allez choisir Linux Ubuntu AMD 64.8, cliquez download et cela va télécharger télécharger Nessus. Une fois que vous avez téléchargé Nessus, donc je l'ai téléchargé en utilisant la ligne de commande avec la commande wget. Ensuite, j'ai nommé le fichier Nessus underscore AMD 64.dev. Donc c'est un fichier Debian. Je l'ai téléchargé. Ensuite, j'ai utilisé la commande apt install-f. Ensuite, le nom de mon fichier Nessus. Cela a installé le fichier. Une fois le programme installé sur le système, j'ai utilisé systemctl start nessusd. Cela va lancer le service de Nessus. J'ai confirmé ça avec la commande systemctl status nessusd.service et vous pouvez voir que le service est actif. Voilà. Donc, avec ça, vous pouvez tout simplement aller sur cette adresse qui est en fait calip2. Et vous allez entrer le port par défaut qui est le 8834. Vous allez avoir une interface où vous allez devoir télécharger quelques dépendances de Nessus. Cela va prendre un peu de temps. Pour moi, ça m'a pris une demi-heure. Et ensuite, vous allez pouvoir créer un compte. C'est simple, c'est très direct. C'est direct. Il y a rien de complexe dans cette procédure-là. Une fois que vous avez créé un compte, vous allez loguer et vous allez atterrir sur une interface comme celle-là. Donc voilà, j'ai lancé 3 scans ici pour vous montrer les résultats directement et pour ne pas perdre du temps parce que le scan peut prendre beaucoup de temps. Pour lancer un scan, il suffit juste de cliquer sur New Scan et là vous allez avoir une myriade d'options de scan. Vous avez le Internal PC Network Scan, Malware Scan, Mobile Device Scan, si vous avez des appareils mobiles à scanner, mais il vous faut la version premium. Vous avez aussi des scans spécifiques pour des vulnérabilités qui sont plus ou moins nouvelles, par exemple le Log4Shell, Log4Shell Remote Checks, Log4Shell Vulnerability Ecosystem. Toutes ces vulnérabilités sont plus ou moins nouvelles. C'est en 2021 qu'on voyait, 2020. Active Directory Starter Scan, donc ça, c'est pour les réseaux qui reposent sur une architecture Microsoft Windows. Vous avez Print Nightmare pour checker pour cette vulnérabilité. Mais pour cette démonstration, on va s'intéresser au Basic Network Scan. Donc vous allez cliquer sur cette option et vous allez avoir la possibilité d'entrer quelques informations. Ici, vous allez entrer le nom de votre scan. Par exemple, test d'intrusion, donc c'est juste un nom, une description si vous voulez, où vous voulez le stocker, donc folder my scan, c'est par défaut. Et là, vous allez entrer l'adresse IP du serveur ou des serveurs ou du réseau que vous voulez scanner. Voilà. Vous pouvez bien évidemment tweaker un peu les paramètres. Vous pouvez planifier le scan pour un temps spécifique. Vous avez aussi la possibilité d'envoyer des notifications à votre adresse email quand le scan commence ou quand il se termine. Vous avez aussi des paramètres de rapport et de assessment credentials plugins. On va pas configurer et changer ça. On va laisser tout par défaut et c'est pour cela que j'ai déjà lancé un scan. Donc quand vous allez créer un scan, vous pouvez juste cliquer sur launch et ce bouton va lancer votre scan. J'ai déjà fait 2 scans spécifiquement sur, le premier c'est sur le serveur web, mon serveur web, hackinggeek.com. Donc ici, vous allez voir les résultats, vulnerabilities, et ça, c'est toutes les vulnérabilités qui touchent mon serveur web. Ici, c'est toutes ces vulnérabilités sont pas effectivement des vulnérabilités, c'est juste des informations qui sont physiques, qui est bien de savoir. Ensuite, j'ai aussi une vulnérabilité qui dit according to its version, the installation of PHP on the remote host is no longer supported. La solution, donc il vous donne aussi une solution, upgrade to a version of PHP that is currently supported. Donc je vais devoir mettre à jour la version de PHP sur mon serveur. Voilà. Donc ça, c'est une vulnérabilité critique, comme vous le voyez ici, et c'est très important de le noter. Par exemple, moi, en tant que qu'administrateur sur mon serveur, je vais directement lancer une mise à jour sur mon serveur. Si on prend, si on voit et on check le deuxième scan, je vais jeter un coup d'œil sur le VPR Top Threats. Vous allez voir que vous avez des vulnérabilités critiques. Assess threat level, donc le level de danger, c'est critique. Vous avez ici toutes les vulnérabilités. Bien évidemment, vous avez quelques informations. Ensuite, vous avez des vulnérabilités de type medium, de type low, et vous avez aussi des vulnérabilités de type high. Donc ça, c'est l'adresse IP que j'ai scannée de mon serveur cible. Remediations, ici, chaque vulnérabilité que vous allez cliquer dessus, ça va vous donner une description de la vulnérabilité et la solution. Donc Nessus, comme vous voyez, c'est très puissant. Ça va vraiment vous aider à avoir une vue générale de l'état de sécurité de votre serveur, de votre réseau. Donc voilà quelques vulnérabilités qui sont low, medium, high et critique. Et ce qui est important aussi, c'est que vous pouvez exporter le rapport. Donc ici, vous avez report. Vous pouvez générer un rapport. Donc Nessus va automatiquement générer un rapport. Et ce rapport, vous allez pouvoir l'utiliser à la fin de votre test d'intrusion pour créer des informations pour votre client. Donc si je vais le mettre sur Downloads, voilà. Et je vais l'ouvrir. Voilà, c'est très bien fait, très bien organisé, avec toutes les vulnérabilités que Nessus a pu trouver. Donc voilà, il est organisé comme vous voyez, les vulnérabilités, il va les classer selon la sévérité. On a des vulnérabilités ils vont scorer 9.8 sur 10, vous avez des vulnérabilités 10 sur 10, c'est-à-dire très critiques et très vitales. Et ensuite, jusqu'à la fin des vulnérabilités qui sont pas des vulnérabilités proprement dit, mais juste des informations concernant votre serveur. Donc voilà, c'est ça Nessus. Il est très important de l'utiliser durant votre test d'intrusion. Bien évidemment, il y a d'autres outils que vous pouvez utiliser pour scanner des vulnérabilités. Il y a OpenVAS, il y a Nikto, etc. Mais Nessus reste l'un des outils les plus puissants pour scanner les vulnérabilités. Dans une prochaine leçon, on va voir comment on peut lire ces informations et les utiliser pour exploiter et pénétrer le système cible. Vous pouvez entamer la phase d'exploitation dans laquelle vous allez utiliser les informations que vous avez récoltées pour exploiter et pénétrer le réseau ou le système que vous êtes en train de tester. Pour cette phase, on a plusieurs vecteurs d'attaque. On a le MITM, ou Man in the Middle, phishing, brute forcing, RCE, ou Remote Code Execution, et on a le DOS, Denial of Service. Chaque attaque a ses propres techniques et stratégies. Pour le MITM, Man in the Middle, l'attaquant va se positionner entre les deux endpoints de la communication. Admettons que vous êtes en train de tester un réseau qui contient des clients et des serveurs. Eh bien, si vous vous mettez entre un client, admettons que c'est un administrateur sur le réseau, et le serveur qu'il est en train d'administrer, vous pouvez voir la communication entre l'administrateur et le serveur si la communication n'est pas cryptée. Du coup, vous pouvez dans ce cas-là soit récupérer des informations sensibles parce que vous êtes en train de voir la communication en texte clair, ou bien vous pouvez aussi manipuler les informations échangées entre les deux endpoints. Donc ça, on appelle cette attaque man in the middle. La deuxième attaque, c'est le phishing, dans lequel l'attaquant va envoyer des messages, que ce soit des emails, des SMS ou autres, pour manipuler les victimes à cliquer sur des liens ou des fichiers attachés. Ces fichiers attachés ou ces liens sont des liens et des fichiers malveillants. Si la victime clique sur ces fichiers et les exécute, elle va donner accès à son système à l'attaquant. Le brute forcing, dans ce cas-là, l'attaquant va essayer tous les identifiants possibles pour essayer de loguer sur une plateforme qu'il est en train de tester. Le remote code execution, c'est une attaque qui va exploiter une erreur dans le code du programme ou du système d'exploitation. Et cette exploitation va donner accès direct à l'attaquant sur la machine vulnérable. Le denial of service, c'est une attaque qui va tout simplement faire envoyer une tonne d'informations sur le serveur cible. Ces informations vont occuper les ressources du serveur et de cette façon-là, le serveur ne pourra plus répondre et servir les clients légitimes de son service. Et du coup, le DOS et le DDoS, Distributed Denial of Service, sont des attaques qu'on utilise pour endommager les serveurs et endommager surtout la réputation des entreprises. Donc ça, c'est grosso modo les attaques qu'on utilise dans la phase d'exploitation. Il y a d'autres types d'attaques, mais généralement, le Remote Code Execution, c'est l'attaque la plus, on va dire, la plus sophistiquée, et c'est l'attaque qu'on cherche souvent en tant qu'attaquant parce que ça va nous donner accès direct au système cible. Donc, dans ce cours, on va voir un type de RCE, Remote Code Execution, et comment cette attaque va nous servir pour nous donner accès au système vulnérable. Donc, donné par Nmap et Nessus pour exploiter et pénétrer notre système cible. Donc, voilà les informations de Nmap. Et on voit bien que Nessus fait un bien meilleur job à présenter les informations. On voit qu'il y a 3 vulnérabilités critiques et 4 vulnérabilités de sévérité haute. Donc, ce que vous pouvez faire, la première chose, c'est de chercher les versions des services. Admettons ici que ici on a une version spécifique d'un service, on peut la chercher sur ce qu'on appelle Exploit Database. Donc, sur Google, vous allez écrire Exploit Database. Et ça, c'est une base de données qui contient tous les exploits connus jusqu'à aujourd'hui qu'on voyait sur la date, la colonne de date. Et vous allez, par exemple, admettons que, ou supposons que vous avez trouvé un service FTP, eh bien, vous allez entrer FTP où vous allez avoir toutes les exploits, les codes qui vous permettent d'exploiter une version spécifique de FTP. Le truc, c'est qu'il faut faire attention aussi à l'exploitation, surtout avec le RCE, le Remote Code Execution, parce que dans certains cas, si vous lancez une exploitation de RCE sur un système, ça pourrait crasher directement le serveur cible. Donc, il faut toujours faire attention et chercher méticuleusement sur le web, sur les forums, comment les serveurs réagissent à ce type d'exploit, à ce type spécifique d'exploit. Si on revient sur le résultat de Nessus, on voit que pour les vulnérabilités critiques, on a Microsoft RDP RCE. Donc c'est une vulnérabilité qui a été trouvée en 2019. Ça s'appelle Bluekeep. On a une autre vulnérabilité, Unsupported Windows OS Remote. On a aussi MS-11030, Vulnerability in DNS Resolution, Could Allow Remote Code Execution. Donc on a ici une vulnérabilité qui peut nous permettre de d'exploiter à distance notre serveur. Donc ça, c'est les trois premières vulnérabilités. Ensuite, on a le MS-17-010. Donc ça, c'est une vulnérabilité très connue. On l'appelle Eternal Blue. C'est une vulnérabilité que le fameux ransomware WannaCry a exploité. On a aussi un problème avec le cryptage de SSL. Une deuxième vulnérabilité liée à SSL. Et on a une vulnérabilité MS-12-020. C'est une vulnérabilité qui peut aussi nous donner accès à distance à notre serveur. Donc il faut choisir l'une de ces vulnérabilités et l'exploiter. Et bien évidemment, vous allez choisir la vulnérabilité qui a le plus de chances de garder la stabilité du système cible et vous donner en même temps accès au système. Donc on va prendre un exemple. Par exemple, je vais choisir la MS-17-010. Vous pouvez bien évidemment, en tant que testeur d'intrusion, chercher toutes ces vulnérabilités. Tout ce que vous allez faire, c'est copier. Et vous allez ici sur Exploit Database et chercher ce type exact. Sinon, vous allez tout simplement le chercher sur Google. Voilà, Exploit. Et ça va vous donner accès à plusieurs ressources qui vont vous expliquer la base de cet exploit, comment ça pourrait être exploité, le problème qui a généré cette vulnérabilité. Donc, ce qu'on va faire, c'est on va essayer d'exploiter cette vulnérabilité de sévérité élevée, et je vais utiliser Metasploit pour faire ça. Donc, je vais ouvrir un autre terminal. Voilà, et je vais lancer Metasploit. Metasploit, c'est un framework. Spécifiquement designé pour les testeurs d'intrusion, et c'est un framework que vous pouvez utiliser pour faire de la reconnaissance, exploitation et la post-exploitation. Donc ça pourrait vous accompagner durant tout votre test d'intrusion. J'ai une formation complète sur Metasploit que vous pouvez trouver sur mon site cours.hackinggeek.com. Donc ici, je vais faire back. Et là, je vais faire use, ou plutôt, je vais faire search eternal blue. Si on revient sur le rapport de Nessus, vous allez voir que, voilà, cette file, elle s'appelle eternal blue. Donc, je vais chercher ça dans Metasploit. Donc, eternal blue. Et là, Metasploit va me donner quelques propositions. Je vais utiliser ce premier exploit. Donc, c'est un exploit propre à Windows. Et la vulnérabilité ou l'exploit s'appelle MS-17-010. Donc je vais faire use. Cette vulnérabilité a été découverte en 2017. Et là, je vais faire show options. Et là, je vais devoir configurer mon exploit. Je vais devoir configurer l'adresse IP. Et pour cela, je vais faire set airhost. Et l'adresse IP de mon serveur, c'est ça. Alors, je vais la chercher ici. Copier. Coller. Voilà, j'ai l'adresse IP. On a le port par défaut 445. Le L-host. Je vais rapidement vérifier l'adresse IP de ma machine. 82, donc je vais faire set lhost, et ça c'est l'adresse IP de mon Kali Linux, et je vais laisser le port qui va recevoir la connexion par défaut, 4444. Très bien. Le payload qu'on va utiliser, c'est le Windows/X64 Metal Crater Reverse TCP. MetaPrinter, c'est l'un des payloads de les charges utiles les plus utilisés et les plus performantes dans l'exploitation et la post-exploitation aussi. Et on va voir comment utiliser MetaPrinter dans la phase de post-exploitation. Maintenant, tout est OK. Si je fais Show Options, je peux réviser rapidement la configuration de mon exploit. J'ai ici l'adresse IP de mon système cible, le port par défaut. Ensuite, j'ai le payload que je vais utiliser. Vous pouvez le changer, mais je préfère le laisser par défaut. J'ai l'adresse IP de mon Kali Linux. Donc, une fois Metasploit va exploiter cette vulnérabilité, le système cible ou le système victime va envoyer une connexion inverse à mon adresse IP de Kali Linux sur le port 4444. Donc maintenant, pour lancer l'exploit, je vais exécuter la commande exploit. Et cela va lancer l'exploit. Donc par expérience, je sais que cette vulnérabilité ou cette exploitation peut échouer à la première fois. Donc il faut être prudent, parce que si ça échoue, ça va crasher le système cible. Et c'est un grand problème si vous êtes sur un milieu de production. Donc il faut être patient, faut aussi chercher un exploit qui est plus ou moins stable. Donc ici on voit que on a sending stage. Normalement ça réussit. Voilà. On voit ici win. Si vous avez failed, il faut réessayer l'exploitation. Et vous voyez bien que je suis sur une session MetaPrinter. Donc j'ai exploité la machine à distance. Je peux faire maintenant sysinfo. Et vous allez voir que si c'est une machine Windows 7, le computer name c'est John-PC. Et ça, c'est le serveur cible qu'on a énuméré, on a récupéré des informations. On a choisi une vulnérabilité parmi les vulnérabilités que Nessus a trouvées. Et à la fin, on a exploité ça avec Metasploit. Maintenant, on est sur le serveur, on peut le manipuler, on peut récupérer des informations et on peut créer des fichiers et des répertoires sur le système à distance. Donc ça, ici, ça, la phase d'exploitation est finie. Tout ce qu'on va faire après ça, c'est ce qu'on appelle la post-exploitation, c'est-à-dire on va faire quelques manipulations pour récupérer plus d'informations et essayer de maintenir l'accès sur le système cible. Donc, c'est ce qu'on va voir dans les leçons qui vont venir. Puissons pour la phase de post-exploitation. Si vous voulez découvrir d'autres commandes que vous pouvez utiliser avec MetaPrinter, vous pouvez entrer la commande help. Et cela va vous donner une liste bien organisée de toutes les commandes que vous pouvez exécuter. On commence par les commandes de base. Vous pouvez exécuter le point de, d'exclamation pour afficher le menu d'aide. Sinon, vous pouvez directement taper help. Vous avez aussi une commande qui est GUID. Il va vous donner quelques informations sur l'utilisateur et les permissions. Ici, vous avez la possibilité d'exécuter toutes les commandes qui pourraient s'exécuter sur un système Linux. Ensuite, vous avez des commandes en relation avec le réseautage, des commandes de système, des commandes d'interface utilisateur, des commandes pour manipuler et contrôler la webcam si vous voulez avoir des vidéos et des photos de votre utilisateur. Vous avez des commandes pour manipuler le audio, des commandes pour élever les privilèges sur le serveur. Vous avez des commandes pour récupérer les hashes et les mots de passe des utilisateurs. Voyons voir quelques commandes. Donc ici, je vais faire pwd et je suis sur le C Windows System 32. Revenir deux pas en arrière et je vais me déplacer vers le répertoire desktop. Donc je vais me déplacer vers users. Voilà. ls. Je vais me déplacer vers le répertoire de John. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans certains cas, l'interpréteur peut crasher et cela va interrompre la connexion avec votre serveur distant. Donc on est sur le serveur de sur le répertoire de John LS et voici les fichiers de John. On peut voir que on a un fichier un répertoire de music, on a quelques fichiers anti-user.tat, on a ici quelques fichiers de log, fichier print hood. On peut créer un fichier touch test. Écho, hello world. Écho, ça marche pas. Donc, je peux sauter sur un shell. J'ai changé mon shell interpréteur avec un shell Windows. Attends. Voilà. Très bien. Très bien. On est sur un shell qu'on voit ici, Microsoft Windows. DIR. Donc ici, il faut exécuter des commandes pour Windows. On est sur le répertoire de John et je peux faire type cd desktop by dir. On n'a aucun fichier. Echo hello world. .tsc.dir et voilà, j'ai un fichier .tsc. Donc je peux créer des fichiers, des informations que vous voulez. Je vais revenir sur mon shell, sur mon payload de interpréteur. Yes. Voilà, je suis sur interpréteur encore une fois. Voilà. Maintenant, je peux récupérer les hash des utilisateurs avec la commande hashdump. On voit bien qu'on a un administrateur, guest, et on a l'utilisateur John. Ces informations sont très importantes parce que on va devoir craquer les mots de passe des utilisateurs. Donc, je vais prendre ces informations et les mettre dans un fichier. Comme ça. Donc ça, c'est la première information importante, les hash des utilisateurs. On peut voir les routes, la table de routage sur le réseau actuel du serveur. Donc ça, c'est important dans le cas où vous voulez faire du pivotage au sein du réseau. Get system. Donc si on fait JUID, vous allez voir la session actuelle. La commande get system va essayer d'élever les privilèges sur le sur la machine. Ici, il y a une autre commande qui s'appelle get UID. Il vous dit que les privilèges actuels de vos utilisateurs c'est system. Donc on est tout simplement administrateur sur le système. Donc on peut faire beaucoup de choses avec ces privilèges. Donc on a vu la table de routage, on peut uploader des fichiers. Donc dans le cas où vous voulez installer de la persistance, vous pouvez créer des malwares et les uploader avec Metapreter sur le serveur distant. Vous avez la possibilité aussi de supprimer des fichiers. Donc il faut faire attention avec les fichiers que nous avons créés. On ne veut pas laisser de traces. Donc je vais devoir le supprimer. Voilà. Voilà. Même un accès comme ça va laisser quelques logs sur le système. Et à la fin de votre test d'intrusion, il vous faut supprimer toutes les traces sur le serveur. Donc, dans les prochaines leçons, on va voir comment craquer les mots de passe avec des outils comme John the Ripper et Hashcat. des utilisateurs du système, on voit bien qu'on a un utilisateur John avec son HLM et le HNTLM dans cette deuxième partie. Donc c'est le HNTLM, celui-là, qui nous intéresse et que nous pouvons craquer avec une multitude d'outils. Ce qu'il faut savoir, c'est que même le hash en lui-même, en format brut, est très utile dans beaucoup de vecteurs d'attaque, surtout les attaques qu'on appelle les SAS attacks pass the hash. Quand vous testez un environnement Active Directory, vous avez besoin des hash pour effectuer quelques types d'attaques juste en ayant le hash de l'utilisateur. Donc, vous n'avez pas toujours besoin de craquer le mot de passe de l'utilisateur. Mais je vais le faire pour vous montrer comment vous pouvez utiliser quelques outils de craquage de mot de passe. Donc on va s'intéresser à l'utilisateur John. Je vais prendre le HNTLM, c'est cette deuxième partie, contient le mot de passe de l'utilisateur John. Donc je vais faire copier et je vais ouvrir un autre terminal. Voilà. Et Kali Linux vient par défaut avec deux outils. Le premier, c'est John the Ripper. Et le deuxième, c'est Hashcat. Donc, vous pouvez voir ça ici. Donc, ça, c'est le menu d'aide de John the Ripper. Et vous avez Hashcat, un outil très puissant aussi pour le craquage de mots de passe. La différence, c'est que Hashcat, il a besoin de la puissance et accès à la puissance des cartes graphiques GPU. Et quand vous l'utilisez avec une machine virtuelle, ça ne va pas marcher parce que la machine virtuelle généralement n'a pas accès aux capacités de la carte graphique de votre machine. Et du coup, il vous faut installer Hashcat sur Windows, c'est compatible avec Windows, et lancer Hashcat depuis Windows. Sinon, vous pouvez utiliser John the Ripper. Généralement, j'utilise John the Ripper. Et la façon d'utiliser John the Ripper, elle est très simple. Il suffit juste d'avoir un fichier qui contient les hash des utilisateurs. Donc, je vais créer un fichier avec Nano qui s'appelle hash.txt. Donc, j'ai déjà un fichier avec un utilisateur qui s'appelle Carl. Et ça, c'est le hash de l'utilisateur Carl. Donc, je vais donner un exemple avec ce hash déjà créé. Et pour craquer ce hash, je vais juste faire John hash.txt et John va essayer de craquer ce mot de passe. Donc il l'a fait. Je peux faire dash dash show. Et vous pouvez voir que John a pu craquer le password ou le mot de passe, le hash de l'utilisateur Carl. Et le mot de passe c'est Dougie. Donc ici, John n'a pas craqué le mot de passe. Parce que une fois il craque le mot de passe, il va le stocker dans un fichier et le récupérer juste après pour économiser le travail. Mais je peux vous montrer la procédure. Si on fait cat-hash.txt, je vais prendre ce même hash avec le nom d'utilisateur. Je vais entrer sur une autre machine virtuelle. Voilà. Et je vais créer un autre fichier qui s'appelle hash.txt. Je vais mettre le hash ici, je vais sauvegarder et maintenant je vais lancer John the Ripper. Je peux même ajouter un dictionnaire à John the Ripper avec l'argument wordlist égale user share wordlist. Généralement on utilise la liste .txt et voilà, John en quelques millisecondes il a craqué le mot de passe, donc c'est Doggy. Et l'utilisateur, c'est Carl. Donc, c'est tout simplement ça. Maintenant, je vais changer le hash avec le hash de notre utilisateur John. Donc, voilà. Je vais aller ici et je vais prendre le HNTLM de l'utilisateur. Et je vais le mettre ici. Voilà. Je sauvegarde. Donc, voici le hash. Et maintenant, je vais lancer John avec la même liste. Donc, comme vous pouvez le voir, on a loaded two password hashes with no different salts. Si on fait John hash dash dash show, n'a pas pu craquer le mot de passe. Donc, pourquoi? Parce que tout simplement, le mot de passe n'a pas été trouvé dans le dictionnaire suivant, RockYou. Je peux maintenant lancer John sans dictionnaire. Et cela va faire en sorte que John va essayer toutes les possibilités pour craquer le mot de passe. Vous pouvez voir ici que le processeur de ma machine virtuelle est à fond. Voilà. Parce que John utilise la puissance du CPU ou du processeur pour faire le craquage. Donc ça va prendre du temps, mais au même temps, je vais essayer une autre méthode. Je vais prendre le même hash et je vais visiter quelques sites en ligne qui peuvent nous aider à craquer des mots de passe. Le premier, c'est CrackStation. CrackStation est très important. Vous allez sur crackstation.net. Et là, vous allez coller le hash que vous êtes en train de craquer. Je vais confirmer que je suis pas un robot. Et je vais cliquer sur crack hashes. Et voilà. J'ai un type NTLM de hash. J'ai le hash. Pardon. Et j'ai le résultat. Donc, CrackStation a pu craquer en quelques millisecondes le hash suivant. Mon hash. Donc, c'est, le mot de passe, c'est ALKFNA22. Donc ici, je peux revenir sur John the Ripper et l'arrêter parce que j'ai déjà craqué le mot de passe avec CrackStation. Donc toujours ayez le réflexe de visiter CrackStation, essayez de craquer le mot de passe avec CrackStation. Si ça marche pas, vous allez sur John the Ripper et vous allez aussi essayer d'utiliser Hashcat sur votre machine Windows. Plus vous avez une carte graphique puissante, plus vous avez de chances de craquer le mot de passe en moins de temps. Donc c'est tout simplement ça la façon d'utiliser John the Ripper. John the Ripper bien évidemment supporte et soutient plusieurs formes de hash, que ce soit MD5, SHA, SHA2, etc. Il faut juste essayer différents outils, différents sites en ligne aussi, c'est très important. Et une fois que vous avez craqué votre mot de passe, vous allez le mettre dans votre documentation. En exploitant une vulnérabilité critique sur le système d'exploitation. Maintenant, on peut continuer notre test d'intrusion, mais il faut faire attention parce que dans certains cas, vous allez perdre votre session d'interpréteur et cela posera problème à la continuité de votre test d'intrusion. C'est pour cette raison-là qu'on doit maintenir notre accès sur le serveur en créant plusieurs sessions d'interpréteur ou plusieurs shells distants. Il y a plusieurs stratégies pour cela, mais on va voir une stratégie où on va uploader un fichier malicieux sur le serveur distant et cela va créer une autre session d'interpréteur. Chose qui va augmenter nos chances de rester sur le serveur distant. On va voir aussi quelques autres manipulations qui vous permettront de garder persistance sur le serveur que vous avez pénétré. Donc ici, si on exécute la commande session sur Metasploit, vous allez voir que vous avez une seule session Metarpreter sur le serveur et ça, c'est les privilèges que vous avez avec cette session. Donc on utilise l'utilisateur ou le computer ou l'ordinateur avec le nom John-PC et on a les informations d'adresse IP et le port. Maintenant, je vais utiliser cette même session en utilisant la commande sessions-i1. Donc 1, c'est le ID de la session et cela va me donner la main sur ma session method prêt. Voilà. Donc ça, c'est la première étape qu'on va faire, c'est-à-dire assurer que notre première session MetaPrinter est fonctionnelle. Maintenant, je vais prendre un autre terminal et je vais créer en utilisant MSF Venom, qui est juste un autre outil de Metasploit, qui va nous permettre de créer un fichier malicieux. Donc, je vais utiliser MSF Venom. Et là, c'est la commande complète. Donc, MSF Venom, -p pour la plateforme, c'est une plateforme Windows/Metarpreter, donc je vais toujours utiliser Metarpreter comme payload, reverse TCP. Donc reverse TCP, c'est la méthode que je vais utiliser pour établir la connexion. Il y a le bind et le reverse. reverse, c'est-à-dire que la machine victime, c'est elle qui va initier la connexion. Et le type de payload bind, c'est le contrat, c'est-à-dire que l'attaquant qui va engager et établir la connexion. Donc, on veut que notre victime commence la connexion sur notre serveur attaquant. Lhost, c'est l'adresse IP de ma machine Kali Linux. Lport, je vais utiliser le port 443. Pourquoi? Parce que le port 443, c'est le port utilisé pour la connexion HTTPS. Et souvent, c'est un port que le pare-feu va laisser ouvert. Du coup, tout trafic qui va passer par le 443 sera autorisé par le pare-feu. Donc, on a plus de chances de garder cette session. Dash F, c'est le format de notre payload. Je vais utiliser un format EXE pour la plateforme Windows. Il y a d'autres formats comme DLL, etc. Ce sont des formats que vous pouvez utiliser pour créer votre fichier malicieux pour la plateforme Windows. Ensuite, à la fin, on va donner un nom à notre fichier. Donc, on va l'appeler persistance. Comme ça. Et ça, c'est le nom de notre fichier exécutable. Entrée et msfvnom va générer ce fichier. Donc, si on revient sur... Donc ici, comme vous voyez, je suis sur le répertoire home Kali. Si je fais pwd, je suis sur home Kali. Si je fais ls, ou plutôt ls persistence, voilà. Donc, j'ai le fichier sur le répertoire home Kali. Sur la session Metapreter, je peux confirmer où je suis sur le système local Kali Linux avec la commande L local pwd. Et je suis sur le même répertoire home Kali. Je peux uploader ce même fichier, le fichier persistance.exe, sur la machine distante en utilisant la commande upload, ensuite le nom de mon fichier. Donc je vais copier le nom du fichier pour ne pas faire de faute de frappe. Coller. Et cela va tout simplement uploader le fichier. Voilà. Maintenant, si je fais ls, vous allez voir le fichier persistent.exe. Je vais devoir l'exécuter. Mais ne le faites pas encore parce que on n'a pas établi l'écouteur. On a besoin d'un écouteur sur Metasploit qui va écouter la connexion parce que le serveur distant va exécuter ce fichier, il va initier une connexion vers notre machine Kali Linux, mais il faut que notre machine Kali Linux soit à l'écoute. C'est pour ça qu'on va utiliser MSF Console pour établir un tel écouteur. Donc MSF Console, ça va lancer Metasploit, je vais faire back ici, ensuite use exploit multi-handler. Voilà, c'est ça qui va gérer l'écouteur. Cette payload, je vais mettre le même payload que j'ai utilisé auparavant, c'est-à-dire Windows Metapreter / reverse TCP show options. Je vais changer le port parce qu'on a utilisé le port 443 si vous vous rappelez. Le lhost, c'est l'adresse IP de ma machine Kali. Donc, je vais utiliser l'adresse IP du tunnel. Vous pouvez, si vous êtes en train de faire un lab local, vous pouvez utiliser l'interface Ethernet 0. Moi, j'utilise un lab sur un réseau VPN. Donc, je vais utiliser cette adresse. Donc, c'est important de comprendre la différence. Donc voilà. Donc c'est tout. Si je fais show options, j'ai l'adresse IP locale, j'ai le port 443, et si j'exécute la commande run, ça va lancer un écouteur sur le port 443. Maintenant, je n'ai qu'à exécuter ce fichier avec la commande execute -f, ensuite le nom de mon fichier exécutable. Voilà. Donc ça a créé un process 2396. Si on revient sur l'écouteur, vous allez voir qu'on a une session Metapreter avec les mêmes privilèges, c'est-à-dire privilèges système sur le serveur distant. Je peux faire background. Et si je check combien de sessions, j'ai une session sur le système. Ici, j'ai une session. Voilà. Et là, j'ai une autre session. Donc, ces deux sessions, je peux les utiliser pour continuer mes tests d'intrusion. Bien évidemment, vous pouvez créer plusieurs sessions que ça. Le plus de sessions vous avez, plus c'est bien. Mais faites attention à ne pas être attrapé par les mesures de sécurité de défense de votre serveur ou de votre réseau cible. Donc voilà, ça c'est pour créer plusieurs sessions. L'attaquant aussi va essayer d'utiliser, surtout avec les machines Windows, ce qu'on appelle le Task Scheduler. Donc si vous cherchez ici Task Scheduler sur Windows, vous allez voir quelque chose comme ça. Et sur Windows, vous avez une planification de tâches dans un certain temps. Par exemple, ici c'est un task avec le nom Opera GX Scheduled Auto Update. Donc ici sur ma machine Windows, j'ai le navigateur Opera. Et quand j'ai installé Opera, ça a créé un task, ça a planifié une tâche qui va mettre à jour Opera automatiquement. Donc c'est pas une tâche manuelle, c'est automatique. Et ça va exécuter le process de mise à jour automatiquement. Donc, quand il arrive, par exemple, chaque 48 heures, ça va faire un check pour la mise à jour. L'attaquant, ce qu'il va faire, il va faire la même chose, c'est-à-dire il va créer une tâche ici dans cette table, et cette tâche va tout simplement initier une connexion inverse à son serveur. Donc, il n'a pas créer des sessions métaprêteurs à chaque fois. Il va juste créer une tâche ici. Et par exemple, chaque 12 heures, le système cible va payer une connexion inverse à son serveur. Donc ça, c'est une technique que les attaquants utilisent pour garder persistance sur les serveurs cibles. Une autre chose, si l'attaquant a attaqué un serveur Linux, il va utiliser ce qu'on appelle le cron job. Donc, si vous faites, par exemple, cat etc cron, et vous allez effectuer cron tab, voir le contenu de cron tab, eh bien, cron, c'est un service sur Linux, ou c'est un daemon, on va dire, un processeur sur Linux qui va exécuter des tâches tout comme Windows. Vous avez vu le task scheduler, c'est la même chose ici sur Windows, Linux va utiliser cron, le processus cron, pour exécuter des tâches précises dans un temps précis. Ici, vous pouvez planifier, par exemple, une connexion inverse à votre serveur attaquant avec les minutes, les heures et les mois. Donc c'est spécifique et c'est la technique qu'utilisent les attaquants pour garder persistance, que ce soit sur Windows ou Linux. Donc ça, c'est les stratégies pour le maintien d'accès. Une fois que vous avez fini votre test d'intrusion, il est primordial de supprimer toute trace qui indique que vous avez pénétré le réseau ou le système cible. C'est pour cette raison-là que vous avez besoin de votre documentation. Il va vous indiquer toutes les tâches que vous avez faites tout au long de votre test d'intrusion. Et du coup, vous avez maintenant besoin d'aller et supprimer toutes ces traces, toutes les tâches que vous avez faites, que ce soit une manipulation du registre, des logs, des ports que vous avez ouverts. On a ouvert quelques ports auparavant. Maintenant, il nous faut les fermer. Si vous avez envoyé des emails avec les machines de vos victimes, il faut supprimer ces emails. Si vous avez uploadé des applications comme on l'a fait, il faut supprimer ces applications et aussi arrêter leur processus. Si vous avez planifié des tâches avec Task Scheduler sur Windows ou Cron Job sur Linux, il faut supprimer ces tâches. De cette façon-là, vous aurez à la fin un test d'intrusion bien fait et même les gens qui travaillent sur la défense du réseau que vous avez bien testé vont apprécier votre professionnalisme. Peut-être en ce qui concerne l'effacement des traces, c'est la commande clear F. c'est une commande qui va effacer les logs des événements. Pour vous donner une idée sur les logs des événements sur Windows, vous pouvez chercher Event Viewer. Voilà. Donc Windows va loguer tous les événements sur le système. Il y a des événements d'application, des événements de sécurité et des événements de système. Bien évidemment, quand vous avez pénétré le serveur distant, vous avez généré différents types de logs. Et à la fin de votre test d'intrusion, il vous faut supprimer tous les logs que vous avez générés. La commande clearev va supprimer tous ces logs. Vous voyez que chaque log va donner une description et des détails sur l'événement qui a pris place à un certain moment. Donc la commande clearev va automatiquement et par la part de MetaFilter supprimer tous les logs qui se trouvent sur application security et system. Pour cela, je vais exécuter la commande clearev. Et voilà, ça va prendre quelques secondes. Et comme vous voyez, wiping 501 records from application, system et security. Donc, ça a supprimé 400 événements d'un point de vue sécurité dans la section security ici. Ça a supprimé 1536 logs de système et ça a supprimé 501 logs d'application. Maintenant, le event viewer de la machine cible est vraiment vide. Ça, c'est le rôle de clearev. Maintenant, ça c'est automatique. Ce que vous devriez maintenant faire, c'est de supprimer toutes les applications que vous avez installées et que vous avez codées. Vous allez devoir fermer les ports et bien évidemment, vous devriez aussi supprimer tous les emails ou n'importe quelle donnée que vous avez laissée sur le serveur distant. Si vous avez planifié une tâche en utilisant le scheduler de Windows, tout ce que vous allez faire, c'est tout simplement d'aller sur le planificateur de tâches. Vous allez chercher votre tâche. Par exemple, on va prendre un exemple comme ça, Asus Update Checker, et vous allez le désactiver ou bien le supprimer directement sans le désactiver. Cela va supprimer la tâche que vous avez planifiée. Si vous avez fait ça sur une machine victime Linux, vous allez tout simplement utiliser le terminal pour consulter le crontab. Donc, vous allez faire crontab-i et on va utiliser mon nom. Et vous allez supprimer la ligne qui contient la planification de votre tâche. Cela va supprimer toutes les tâches que vous avez planifiées durant votre test d'intrusion et ça fait partie de l'effacement des traces. Vous devriez donner un rapport détaillé sur la posture de sécurité de votre client. Dans certains cas, vous devriez collaborer avec d'autres pentesters pour créer ce rapport. Ici, je vais vous donner un exemple de rapport que j'utilise dans ma société. D'abord, j'ai le nom de société à qui aider. Ici, j'ai Business Confidential, c'est-à-dire que seules les personnes autorisées à lire ces informations ont le droit de lire. Bien évidemment, ce rapport est en anglais. Donc, vous avez la table de contenu qui va contenir tous les points que je vais discuter. Vous voyez bien évidemment ici toutes les vulnérabilités et les problèmes que je vais discuter tout au long du rapport. Notez que le rapport est de 20 pages. Des fois, il y a des rapports de tests d'intrusion de 100-200 pages. Ça dépend la taille du réseau que vous êtes en train de tester et les problèmes qu'il contient. Donc ici, on a une petite confidentiality statement, disclaimer. J'ai mon email ici pour que les gens puissent me contacter. Assessment overview. Ici, je vais donner une idée générale sur le test d'intrusion. Ensuite, assessment component. Ici, je vais parler des attaques que je vais utiliser, les attaques que j'ai pas le droit d'utiliser, est-ce que je vais faire un web application penetration testing ou pas. Toutes ces données vont être ici dans l'introduction. Ensuite, je vais lister les problèmes que j'ai trouvés. Par exemple, on a trouvé ici avec Nessus quelques problèmes. On va utiliser ces mêmes données et les inclure dans le rapport avec le taux de sévérité et tout. Ensuite, on va lister risk factors, likelihood, combien de chances on a, combien les pirates ont de chances d'exploiter ces vulnérabilités. Ensuite, ici, le scope, c'est-à-dire le cible. Ici, le